Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Merci Patrick pour ta présidence. Merci à tout le groupe de louanges. Est-ce que nous avons passé une bonne semaine? Ça m'arrive au travail, quand j'arrive au réfectoire et je dis, mais il n'y a personne. Et les quelques personnes qui sont là me disent, et nous, on n'est personne? Ce matin, nous sommes pas nombreux, c'est bien sûr les congés scolaires, mais en plus, on a eu un long week-end. Qui de nous était en congé ce vendredi? Beaucoup de personnes qui étaient en congé ce vendredi. C'était quoi vendredi? La fête des travailleurs et des travailleuses. Ce mouvement est né aux États-Unis dès 1884. J'étais pas encore né. Pour la journée de 8 heures. On doit savoir que certains pays travaillaient 10 à 14 heures par jour. Les enfants de 9 ans travaillaient 10 heures. Les enfants de 14 ans travaillaient 12 heures. Aujourd'hui, il y a encore des pays comme ça. Et les États-Unis, le syndicat a donné 2 ans au gouvernement pour changer de rythme, de passer 8 heures de travail, qui veut dire 48 heures par semaine. Ce syndicat disait, il faut 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. C'est un bon rythme. Dieu a créé des journées de 24 heures et il s'est pas trompé. Et le 1er mai 1886, une grève aux États-Unis, plus de 300 40 000 ouvriers ont arrêté de travailler. Mais malheureusement, dans la foule, plusieurs meurent, perdent la vie. Mais ce 1er mai 1886, la journée de 8 heures deviendra une réalité. 1er mai 1886, également en Belgique, je dirais les Wallons, tout le bassin de Liège et de Charleroi, ont fait aussi une grève. Et le gouvernement de l'époque a envoyé l'armée sur ses ouvriers. Plus de 19 ouvriers sont abattus. La Belgique a adopté officiellement la journée de 8 heures de travail en 1921. Un article sur le journal du syndicat, il dit « Ce jour de férié, c'est un jour de repos bien mérité. Ce jour férié, c'est un jour de repos bien mérité. » Je vous pose la question, qui a inventé le travail? Qui a inventé le travail? Mais c'est Dieu lui-même. Dieu à l'origine du travail. Il est à l'origine du travail. C'est Dieu lui-même qui a donné l'exemple du travail en créant le monde. Dieu a travaillé pendant 6 jours. C'est vrai que à l'origine, le travail, je dis bien à l'origine, avant le péché, était une très très bonne chose. Même un cadeau de Dieu. Adam et Ève ont été créés pour travailler. Ils ont été créés pour travailler, pour cultiver, pour gérer leurs ressources. Ils sont appelés à dominer sur elles. Le travail est une bonne chose. Mais puis, Adam et Ève ont commis ce qu'on appelle le péché. Et le travail est devenu pénible, dur. C'est Dieu lui-même qui dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Voilà que le travail a changé. Il devient dur et pénible. Qui veut dire, mes frères et sœurs, il n'y a pas de boulot parfait. Ça n'existe pas. Un boulot parfait, ça n'existe pas. Mais nous avons été créés pour travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail est toujours un cadeau de Dieu? Je me souviens quand je préparais ce message, un matin très tôt, j'étais en train de regarder, et ceux qui préparent, ils savent que les minutes passent très vite quand tu dois préparer. Et voilà qu'il est déjà 6h30 du matin, et je dois vite partir pour pas arriver en retard au travail. Et voilà que je me gare sur le parking du travail, puis on monte quelques escaliers, on arrive dans une cour, et là, de loin, il y a un ouvrier et le garde qui est là. Et cet ouvrier dit au garde, « Voilà un homme qui est heureux !» Et le garde dit, « Il a même le sourire pour venir travailler. » Je commence à rigoler parce que je pensais à ce message. Que je rentre à l'intérieur de l'usine, j'arrive au vestiaire, il y a un ouvrier qui me voit, que je ris. Et il me dit, « Pourquoi tu rigoles ?» Et je lui dis, tout un coup ainsi, « J'ai qu'une passion, c'est de travailler. » Et lui, il me regarde et me dit, « Mais Gino, tu es quelqu'un de bizarre. Tu es pas normal. » J'ai dit ça en rigolant. Ecclésias, au chapitre 8, au verset 15, Salomon dit, « Pour ma part, je célébrerai en effet le seul bonheur de l'être humain ici-bas, c'est de manger, de boire et d'éprouver de plaisir. » Voilà ce qui doit accompagner son travail, chaque jour que Dieu lui donne dans sa vie, ici-bas. Une réalité, la joie et le bonheur de tous les jours doit accompagner dans ton travail. On doit accepter une réalité. C'est que l'homme et la femme doivent travailler. Travailler avec joie et bonheur. C'est un cadeau de Dieu. Souvent, je le dis, et je le dis même ici, habille ma retraite. Je dirais comme cet article, ce jour est un jour de repos bien mérité, ma retraite. Et pourtant, notre vocation, c'est de travailler. Dieu lui-même a donné ce rythme, ce cycle de travail et de repos. Dieu a béni le septième jour. Il l'a sanctifia. Il a donné un cycle de travail et de repos. Tous les deux sont ensemble des cadeaux de Dieu. Ce sont de bonnes et de bonnes choses. Un article d'un chrétien dit, le travail n'est pas seulement un moyen de vivre. Il fait partie de ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour travailler. Nous avons été créés à l'image du Dieu qui travaille. Tim Keller, ce théologien américain que j'aime beaucoup, qui est décédé, a dit, si on posait à l'époque de Jésus, aux Romains, aux Grecs, aux Juifs, si Dieu viendrait sur cette terre, à quoi il va ressembler? Certainement, les Grecs diraient un grand homme philosophe, un roi. Si on pose la question aux Romains, certainement ils auraient dit un homme de guerre, un chef de l'armée. qui aiment faire la guerre. Pour les Juifs, certains Juifs diraient un charpentier, un homme qui travaille, qui coupe du bois, qui l'assemble et qu'il transpire. John Stott, ce théologien, dit une histoire. Un jour, un jardinier demande à un pasteur, un prêtre, un ancien, de venir chez lui. « J'ai envie que vous passiez à la maison voir mon jardin. » Ces trois hommes arrivent et voient ce jardin et ils commencent à éclater de louanges envers Dieu. « Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es magnifique. Tu fais des belles choses. » Et voilà que ce jardinier se met en colère. Il est fâché envers ces trois personnes. Il dit, c'est moi qui a travaillé cette terre. C'est moi qui a cultivé cette terre. Et John dit, il y a une différence. C'est que Dieu est le Dieu de la nature. Et l'homme est celui qui la cultive, qui la travaille. Bien sûr, on a besoin de Dieu. Dieu nous donne ce travail qu'on peut faire des choses extraordinaires. Parlez avec un maçon. Quand il a terminé sa maison, il la regarde et il admire ce qu'il a fait. Posez la question au mari de Sarah, Nicolas. Il va vous le dire. Quand il va passer par là, il peut même s'arrêter et dire « Waouh, ce que j'ai fait !» J'étais avec, bien sûr, on était avec lui, avec Nicolas, au week-end d'église. Et là, j'étais près des escaliers, on parlait ensemble. Et puis, il me dit « Regarde, la rampe de l'escalier. Celui qui a fait ça, c'est magnifique. Il a bien fait ça. Je resterai des heures et des heures à regarder cette rampe, tellement que c'est bien fait. » Dieu nous donne ce cadeau de transformer telle et telle chose pour la gloire de Dieu. C'est vrai que notre travail n'est pas souvent notre métier. Et là, je parle pour moi. Moi, je n'ai pas bien travaillé à l'école. En secondaire, je ne savais pas quoi faire. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai suivi mes potes. Et me voilà dans une usine. Ce n'est pas mon métier, mais c'est un travail où je peux, où je dois même, glorifier Dieu dans le travail. Mais c'est quoi glorifier Dieu dans son travail? C'est quoi? Chaque année, nous avons une audite, même deux fois par an. Et voilà que c'est tombé sur moi. Et voilà que cette personne me pose énormément de questions. Qu'à un moment donné, je lui dis à cette personne, tu sais, vous savez, ce que je fais, je le fais comme si c'était à la maison, comme si c'était pour moi. Et là, il me regarde, il fait « Waouh, est-ce que c'est pas pour glorifier Dieu ?» Quand je ferme une caisse de verre, je pense au client qui va ouvrir cette caisse. Comment je la ferme pour qu'il n'ait plus facile à l'ouvrir? Comment je ferme une caisse pour pas que ces carreaux sont cassés à l'arrivée. Comment je prépare un travail pour mon collègue pour qu'il ait plus facile quand il arrive. Est-ce que c'est pas glorifier Dieu? Comment j'aime l'ouvrier qui est à côté de moi? Est-ce que c'est pas glorifier Dieu? C'est vrai que les Juifs, les Grecs, les Romains, et encore aujourd'hui, à l'époque, on considérait le travail manuel indigne, même esclave, une classe inférieure. Heureusement que Luther, Calvin et les autres réformateurs ont redonné au travail toute la dignité que Dieu avait accordée à tout travail. Le travail est le but de glorifier Dieu. Nous sommes créés à l'image du Dieu qui travaille. Nous sommes des personnes de valeur. C'est vrai que souvent nous recherchons dans le travail de la reconnaissance. Nous cherchons constamment à éprouver notre valeur. Et si nous cherchons tout le temps, nous cherchons toujours à améliorer et faire des efforts. Mais notre travail n'est pas notre identité. Je sais pour qui je travaille, pour mon Dieu, pour mon roi, pour mon Seigneur, pour mon Sauveur. Pourquoi aujourd'hui, et c'est pas que aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent gagner au loto, Euromillion, ces cartes à gratter. Pourquoi? Ben, certainement, on va vous dire, pour arrêter de travailler. Je me souviens, j'étais chez mon coiffeur et on parle de tout et de rien. Et à un moment donné, il me parle du salaire des joueurs de foot. Ils ont à peu près la même chose que moi. Et puis à un moment donné, j'allais partir et il me dit, Gino, t'as pas vu la semaine dernière un Belge qui a gagné Euromillion. Et il me dit la somme, j'ai oublié, tellement que c'est beaucoup. Et il me dit, Gino, si toi tu gagnes Euromillion, qu'est-ce que tu fais? Wow, quelle question. Je savais pas quoi répondre. Et à un moment donné, je lui dis, écoute David, demain je dois aller travailler. Et il a commencé à rire. C'est vrai que beaucoup de personnes veulent gagner au loto, au Euromillion, pour arrêter de travailler. Mais si on creuse un petit peu plus, il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr les loisirs. Regardez un peu ceux qui gagnent. Ils diront directement, je vais faire un tour du monde. Ou je vais acheter une maison près de la mer. Je m'en vais, j'achète une maison, j'achète une voiture, je fais ci, je fais cela. Notre premier ministre a dit, nous les Wallons, on préfère pêcher que travailler. Nous, les Wallons, on préfère pêcher que travailler. Il a raison, mais je lui dirais, tout le monde voudrait pêcher, faire les loisirs. Le travail à l'époque, c'était pour te nourrir le même jour. Aujourd'hui, le travail, c'est plus pour se nourrir le même jour. C'est plutôt pour nos loisirs de tous les jours. Plusieurs accumulent, plusieurs travaillent pour faire énormément de loisirs. Alors le travail ne devient plus un cadeau de Dieu, mais plutôt une idole dans notre vie. Oui, le travail, c'est dur et même pénible, mais pourtant c'est un cadeau de Dieu pour glorifier Dieu. Un jour viendra que nous serons tous en retraite pour l'éternité. Et si ce matin je vous dis, qu'au ciel, on va continuer à travailler. Alors là, peut-être qu'aujourd'hui, tu es déçu qu'on va continuer à travailler au ciel. Pourtant, c'est une réalité. Un travail où il n'y aura plus de péché. Notre espérance est un travail où il n'y a plus de péché. Fini un patron qui te considère comme un esclave. Fini un patron qui est injuste avec toi. Fini des ouvriers qui trichent dans leur travail, qui profitent de toi. Fini ces ouvriers qui viennent parler des autres ouvriers. Fini ces ouvriers qui regardent comment tu travailles pour aller dire à l'un ou à l'autre. Nous serons avec notre Seigneur. Le Seigneur sera au milieu de nous. Fini le péché, fini la souffrance. Nous serons dans la joie parfaite, dans le bonheur parfait. Le Maître sera au milieu de nous. Ce théologien américain, John Edward, dit que les saints continueront d'avoir des idées durant l'éternité. Nous sommes créés pour apprendre et apprendre pour l'éternité. Les deux premiers chapitres de la Bible nous parlent du paradis. Et puis, le péché est rentré. Ils sont retirés du paradis. Mais les deux derniers chapitres de la Bible nous parlent du paradis. Apocalypse au chapitre 21, au verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Nous serons sur une nouvelle terre. Comme on peut la comprendre, peut-être qu'on se trompe, cette nouvelle terre sera un cube en quelque sorte. 2500 kilomètres de long, 2500 kilomètres de large, 2500 kilomètres de haut. Et Jésus sera au milieu de nous. Et la première chose qu'il fera, Jésus, c'est essuyer toute larme de nos yeux. Combien de personnes pleurent dans leur lieu de travail? Combien de personnes pleurent dans cette souffrance de travail? Combien de pleurs à cause du travail? Et on passe à la dépression, même jusqu'à la mort. Jésus essuiera toute larme de nos yeux. La mer ne sera plus. Oh zut, comment je vais passer mes vacances à la mer? La mer est symbole de colère et d'agitation, de mort. Il n'y aura plus la mer, mais il y aura une rivière, plutôt un fleuve d'eau, comme dans le jardin d'Éden, qui a arrosé ce jardin. On a besoin d'eau. Aujourd'hui, un maçon, s'il n'a pas d'eau, il ne sait pas faire de mortier. On aura besoin d'eau pour l'éternité. Dans la parole de Dieu, il nous parle d'un banquet. On va manger, boire. Même Jésus dit dans Marc, il dit, en vérité, je vous le dis, je ne boirai plus jamais de fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Mais qui va préparer ce repas, manger, boire? Est-ce que c'est Hélène? Est-ce que c'est Génia? Est-ce que c'est Myriam? Est-ce que c'est Rose? Ou peut-être moi? Qui va préparer cela? Les anges? C'est Jésus, regarde Gino, le miracle qu'il a fait, il a changé l'eau en vin, mais c'est lui. Est-ce que ce n'était pas plutôt un panneau indicateur? Même si c'est lui, qu'est-ce qu'il a dit? Allez chercher ces jarres, ces fûts, et mettez de l'eau. On nous parle qu'il y aura des montagnes. Ah ouais, c'est pour faire du ski. Est-ce que c'est sur ces montagnes il n'y aura pas des vignes? Est-ce qu'il n'y aura pas des bergers où ils vont prendre ce lait pur et ce fromage pur? Benoît sera là. On nous parle même des villes. Qui va construire ces villes? Le mari de Sarah, Nicolas? Non, ce sera moi, le chef d'entreprise. Je prendrai David, André, je prendrai telle et telle personne. Qui va faire cela? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? On nous parle des nations. C'est fini de travailler avec un Italien qui est fainéant. Là, tout le monde sera le même. Et on sera heureux de travailler avec l'un et l'autre. On nous parle des portes. Ça, c'est mon ami Mario, qui est menuisier. Mes frères et sœurs, peut-être que ce matin, tu es déçu qu'on va continuer à travailler. Mais c'est une réalité. Jésus est parti préparer une place pour toi, pour moi. Ça ne veut pas dire que tu le mérites, comme ce journal. C'est un jour bien mérité. Mais grâce à Jésus, c'est lui qui a fait que nous pouvons être pour l'éternité, sans plus le péché. Et nous continuerons à le servir et à travailler avec une joie parfaite, dans le bonheur parfait. Lui sera au milieu de nous. Conclusion, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, continue à travailler avec la force du Seigneur. Demain, quand tu vas travailler, rappelle-toi que tu vas glorifier Dieu dans ton travail. Ton maître, ton Seigneur est là. Essaie de le faire avec le sourire, avec la joie, le bonheur. Parce qu'après la journée, vient les loisirs où tu peux retrouver ta femme, tes enfants et tu vas faire un petit tour. Et puis vient le repos où tu peux faire un petit câlin, quoi que ce soit. Ce sont des cadeaux de Dieu. Est-ce qu'on les prend, ces cadeaux? Et on le vit avec joie et avec bonheur. Pour le retraité, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont au chômage. Dans un autre contexte, l'apôtre Paul dit, « Soit donc vous mangez, soit donc vous buvez. » Et c'est là que je veux m'arrêter. « Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Paul dit manger et boire, les actes les plus ordinaires de la vie quotidienne. Nous devons glorifier Dieu. Toute forme de service que tu fais dans ta vie de tous les jours, aller chercher les petits, faire telle et telle chose, faire les courses, dire bonjour à une personne, c'est glorifier Dieu dans la vie de tous les jours. C'est glorifier Dieu dans la vie de tous les jours. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Le plus grand devoir du croyant, c'est une vie qui rend gloire à Dieu. Je termine par ce verset que tout le monde connaît, Romains, au chapitre 12, au verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le travail peut être un acte d'adoration si on le fait pour bénir les autres et pour rendre gloire à Dieu avec notre corps. Courage pour demain. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.